Au-delà du live, le traitement de l'actu numérique.
Bonjour à tous et bienvenue dans Au-delà du live, le podcast mensuel dédié au numérique et à ses actualités. Je suis accompagné comme toujours par mon compère Alain Garnier. Alain, comment vas-tu ?
Eh bien, écoute, Benoît, grande forme, mais quelle chaleur, La caliente dans le numérique, caliente tout le week-end, et caliente dans l'actualité, comme on va le voir. S'il y avait un mot à retenir, c'est ça, c'est caliente.
Voilà. Ouais, exactement, là, le mois de juin, en termes aussi bien de la météo à l'extérieur et la météo du numérique, elle est effectivement très, très, très chaude. Alors, très heureux de te retrouver pour décrypter avec toi, comme toujours, les sujets qui ont marqué l'actualité, Alain. On se retrouve aujourd'hui, chers auditeurs, pour l'épisode numéro 31 déjà d'Au-delà du live, qui sera donc du coup dédié à l'actualité du mois précédent, donc le mois de mai. Au programme de cet épisode, les actions du gouvernement français pour sécuriser Internet, l'appel à la création d'un service public pour une éducation populaire au numérique, le frein à la transformation numérique au sein des organisations et évidemment plein d'autres sujets, bien sûr, qu'il vous reste à découvrir. Je te propose de commencer dès maintenant avec notre sujet à la une, Alain, et pas des moindres, tu en avais déjà parlé, mais j'avais vraiment à cœur d'aborder ce sujet avec toi, la sécurisation d'Internet par le gouvernement français. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, on a parlé de lui déjà plusieurs fois, hein, vous devez le connaître maintenant, a présenté le mois dernier en Conseil des ministres un projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique. Voilà, gros projet. Un projet de loi qui passe en revue évidemment de nombreux sujets, hein, filtre anti-arnaque, protection des mineurs sur Internet, et aussi, et c'est ce qui va nous intéresser en particulier, des actions de soutien envers les entreprises et les collectivités. Des actions qui ont pour but d'empêcher des abus de position dominante de la part de certains fournisseurs cloud et de mettre en fait un coup d'arrêt à des pratiques commerciales qui sont jugées déloyales. On retrouve notamment parmi les mesures proposées l'interdiction des frais de transfert, l'encadrement des avoirs commerciaux et ça justement Alain, tu en avais parlé, la portabilité imposée sur le marché du cloud. Alors ce qui est intéressant, c'est que Alain, toi tu étais présent physiquement lors de la présentation de ce projet de loi. Je le répète, il est extrêmement riche, hein, donc vraiment n'hésitez pas à aller vous renseigner dessus, chers auditeurs. Qu'est-ce que tu en retiens principalement de ce projet de loi et sur si tu devais me donner voilà quelques points sur lesquels tu souhaites attirer l'attention de nos auditeurs, lesquels seraient-elles?
Alors, déjà, je veux déminer une question un peu politique. C'est qu'on voit bien que ce gouvernement, passer des lois, c'est pas simple pour lui. Hein. On va pas le faire de bon courage. On voit bien les problèmes qu'il a. Et justement, sans rentrer dans le débat politique qu'il y a derrière, quelque part, ils ont profité aussi de la transposition du DMA et du DSA, Digital Service Act, en France, pour rajouter des éléments qui étaient une loi numérique, j'ai envie de dire, en mettant tout ça dans un paquet cadeau un peu général. Ce qui fait que du coup, quand on regarde de loin, on se dit, mais c'est quoi ce truc qui passe d'abord de parler de protection de la pédopornographie au fait des pratiques commerciales. T'as envie de dire, attends, il est où le lien? Alors en fait, le lien, il est qu'effectivement, tout ça, ça a rapport avec la politique française-européenne vis-à-vis des grandes plateformes. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au fond, c'est une mesure de loi totalement 360 degrés sur tous les sujets d'aujourd'hui qui font un petit peu l'actualité. Donc oui, comment est-ce qu'on fait de la censure? Alors ça, c'est un vrai sujet de débat également par l'État, sur Twitter, Facebook par exemple, ou quand il y a du cyberharcèlement. Voilà, donc on retrouve bien ces questions-là. En passant par, effectivement, comment est-ce qu'on fait pour empêcher que les plateformes deviennent dominantes et monopolistiques sur leur domaine? Bon. Et que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont trouvé que c'était un peu un drôle de mélange. Moi, je trouve que ce qui est vraiment plutôt vertueux, c'est qu'enfin, on s'attaque au gros. Bah, c'est des lois qui disent que les plateformes ont des grands pouvoirs, donc des grandes responsabilités. Et quelque part, les grandes responsabilités, ils ne doivent pas en abuser. Bah, par exemple, la question des crédits gratuits. Tu vois, là, nous, par exemple... On a eu un mail là, d'un partenaire d'un grand hyperscaler dont je ne vais pas faire la pub, hein, donc dans les trois grands clouds, qui nous proposait 150 000 euros de crédit gratuit pour aller sur son cloud. Ouais. 150 000 euros, t'en rends compte ? Il faut se dire, comment je résiste à ça ? Mais ça, c'est totalement illégal. Enfin, parce que c'est illégal au sens où c'est une distorsion de marché complètement délirante. tu vois, qu'on fasse des petits crédits gratuits pour que tu vois que le truc, il est bien, que le cloud, il est utile. D'accord, mais là, voilà. Donc, voilà, c'est ça le sujet des pratiques anticoncurrentielles. Et on ne peut pas traiter le problème du monopole des plateformes si on ne traite pas la question du monopole des opérateurs qui font les plateformes. Parce que finalement, pourquoi à la fin, on n'a plus que Facebook qui existe et qui ne veut pas se soumettre à notre loi? Parce qu'on n'a pas 10 Facebook, dont 8 qui se soumettent à notre loi, et 2 qui ne le feraient pas et qui seraient éjectés du marché. Tu vois, tu comprends? Aujourd'hui, quand on dit, bah, dans ces cas-là, on va éteindre Twitter, ce qu'a dit, par exemple, à un moment donné, Jean-Noël Barrot, les gens ont dit, mais c'est pas possible, ce mec-là est dangereux, il veut fermer Twitter. Bah, on n'en serait pas là s'il y avait peut-être aussi des alternatives. Quand, à un moment donné, il y a des monopoles, ils n'ont plus aucune limite, en fait. Donc, voilà, c'est ce travail. Donc, d'un côté, mettre des limites aux monopoles si on peut, et de l'autre, bah, créer de la concurrence pour qu'il n'y ait pas que des monopoles. Moi, je trouve que ça va dans le bon sens. Alors après, il y aura toujours les grincheux pour dire ça va passer vite, ça va passer vite. Tu sais quoi ? Ils ont raison. Mais après, quand on va trop vite, des fois, on fait des accidents. Au moins, moi, c'est vraiment mon approche hein, concernant ce gouvernement et le travail que fait le ministre et ses équipes. Hein. Au moins, je préfère que ça crante moins vite que ce qu'on pense, mais qu'on fasse des grosses promesses qu'on ne tient pas. Voilà. Alors après, on peut dire oui, alors ça, c'est une position un peu conservatrice. Enfin, en attendant, ça fait des années qu'il ne se passait rien. Ça faisait des années qu'aucun gouvernement n'avait mis des lois qui bloquaient ces grandes plateformes. Donc moi, je dis voilà, ça va plutôt dans le bon sens et ça va permettre, je pense, déjà une prise de conscience que l'État n'est plus démuni face aux plateformes. Voilà. L'État... State is back. Voilà.
Alors, tu as mentionné juste un point pour terminer sur ce sujet-là. Je voudrais juste avoir ton avis. Hein, voilà. Est-ce que toi, tu estimes ce que tu disais, il y a énormément de sujets qui sont abordés justement dans ce projet de loi. Est-ce que pour toi, justement, est-ce qu'il aurait mieux fallu proposer plusieurs projets de loi en fonction des sujets? Parce qu'encore une fois, le projet de loi, il parle autant de filtres anti-arnaque que de pédopornographie, il s'attaque au démantèlement. Est-ce que pour toi, c'était too much, justement, le fait de tout paquer ça?
Il y a un petit côté too much d'avoir fait tout ça. D'autre côté, du coup, ça n'a pas permis, par exemple, d'aller jusqu'au bout de la concertation. En ce moment, il y a le comité stratégique de filière qui travaille sur des propositions. Ça aurait pu aussi faire partie, justement, d'un truc dans lequel, en tout cas sur le B2B, tout ce qui est plutôt loi de marché, rééquilibrage des marchés, une loi qui aurait embarqué aussi des propositions qu'on fait au CSF, là, tu vois. Mais encore une fois, c'est là où moi, je suis pas du côté du pouvoir. Là, je ne suis pas ministre, je ne suis pas président non plus, en tout cas pas de l'État, je suis président d'autres trucs qui ne sont pas de l'ordre. Et donc, je suis prudent, je sais que ce n'est pas forcément simple de prendre des décisions et quand on est soumis à ce genre de contraintes. Donc encore une fois, moi je donne crédit d'avoir au moins franchi cet obstacle-là. Voilà. Il y a eu une ouverture pour une loi numérique qui a embarqué des choses qui sont positives. Voilà, je dis prenons-les. C'est un point d'appui pour la suite. Voilà, je préfère le voir comme ça. C'est pas que, enfin, tu vois, c'est aussi une forme de pragmatisme par rapport à ce qu'est la complexité politique d'un pays comme la France.
Bien sûr. Et la complexité aussi du sujet abordé, à savoir le numérique et tous les sujets qui l'englobent à lui tout seul.
Également. Oui, mais là, par contre, ça, c'est souvent blablabla, c'est compliqué. Et quand c'est compliqué, c'est qu'on veut pas s'en occuper. C'est pas vrai. La question, par exemple, des commandes publiques, c'est pas compliqué, c'est que les gens veulent pas. Vouloir pouvoir, c'est dommage qu'il n'y a qu'une seule lettre qui le sépare, parce qu'en vrai, il y a un monde qui sépare vouloir et pouvoir. Quand on veut pas, on t'explique que c'est compliqué, c'est pas la même chose, mais il y a peur des effets qu'on n'a pas mesurés. Mais toujours dans la vie, il y a des effets qu'on n'a pas mesurés.
C'est vrai.
Tu vois ? Tu décides de sortir bouffer à midi, qu'est-ce que tu as prévu qu'allait se passer? Tu sais pas. Tu sais jamais. Donc, de quoi on parle sur la question de « ah oui, on sait pas ». Non, il y a énormément de sujets sur lesquels on sait exactement ce qu'il faudrait faire. Après, il y a des gens qui ne veulent pas, où il n'y a pas une majorité suffisante. Donc, dans ces cas-là, ça ne passe pas. Mais ce n'est pas une question de « c'est compliqué ». C'est parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas. C'est très simple. Ils ne veulent pas. Mais justement, d'ailleurs, ils nous bassinent avec des trucs compliqués. C'est qu'ils ne veulent pas, qu'ils nous le disent. Mais ils n'ont pas l'honnêteté, par contre, de nous le dire. C'est tout. Je veux dire, les gens qui gagnent de l'argent parce que ce sont des importateurs de produits américains, ils ne veulent pas perdre l'argent qu'ils gagnent. C'est tout. Ils ne veulent pas donner l'argent à d'autres qui seraient des producteurs locaux. C'est tout. C'est comme si, tu vois, ils disaient « Ah, je ne comprends pas, c'est compliqué la grande distribution. » Non, ce n'est pas compliqué. Ils veulent gagner plus d'argent que les producteurs de lait. même pas compliqué, ça. Voilà. Et ils l'obtiennent parce qu'ils sont plus forts. C'est tout. C'est pour ça qu'il faut, faut revenir des fois à des basiques. C'est la question de la volonté et pas la question de eux. C'est compliqué. Ouais, je sais que c'est pas ce que tu penses, toi, mais c'est souvent une... pour moi, c'est un... Je le dis comme ça. Hein, quand quelqu'un te dit « Non, tu comprends, c'est compliqué », c'est souvent la paresse de la pensée. Il ne veut pas te dire les vrais trucs qu'il y a derrière parce que il sait que tu vas l'emmerder. Il sait que tu vas lui dire « Oui, mais quand même, et oui, tu vas argumenter. » Alors que si tu dis ça, c'est compliqué. Ah bah oui, alors si c'est compliqué, oh là là, c'est pour les grandes personnes, oh là là. Voilà. Non, je pense qu'il faut vraiment là-dessus revenir à des choses justement plus simples. Le monde est plus simple que ce qu'on pense. Par contre, on veut le rendre compliqué quand on ne veut pas le faire avancer.
Écoute, je suis rassuré, Alain. J'avais peur qu'avec la chaleur, tu sois un peu fatigué. D'autant que je sais qu'il y a beaucoup d'actualités à gérer en ce moment, mais je suis totalement rassuré. Voilà. Alain Garnier va très bien, messieurs, dames. Il va très, très bien. Il est plus en forme que jamais. Et ça fait plaisir. Évidemment, merci pour le rappel, Alain. Merci pour avoir traité ce sujet-là. Un numérique plus sûr pour les citoyens et les organisations, donc, mais aussi un numérique plus accessible. C'est notre sujet suivant. C'est ce que propose le Conseil national du numérique, qui, après une année entière de débats en région visant à comprendre un petit peu le rapport de la technologie des citoyens français, appelle le gouvernement justement à créer un service public pour une éducation populaire au numérique qui soutiendrait et coordonnerait les acteurs locaux engagés sur le sujet. C'est Jean-Baptiste Mananti, j'espère que je le prononce bien, s'il nous écoute, j'espère que j'ai bien prononcé votre nom de famille, donc qui est le responsable des relations avec les organisations territoriales pour le CNNUM, Conseil national du numérique, donc, qui explique que ce qui ressort justement de cette année de débat, c'est le caractère sensible au rapport des citoyens au numérique. Et il dit, je cite, « Il doit être considéré comme tel, au-delà de la maîtrise technique des outils et des usages, ce sont les impacts sociétaux, technologiques, économiques, psychosociaux, communicationnels, éducatifs, anthropologiques, du numérique qu'il faut prendre en compte. » Et il nous donne cette analogie, savoir conduire, savoir comment fonctionne un moteur, c'est une chose, mais il faut surtout comprendre comment la voiture a changé notre manière d'aller au travail, de se sociabiliser et de consommer. Donc un service public d'éducation au numérique, Alain, comment est-ce que toi tu perçois cette proposition du Conseil national du numérique? Est-ce que c'est nécessaire selon toi? Pas forcément, oui, mais sous certaines conditions. Comment est-ce que tu vois cette proposition?
C'est urgent. C'est urgent, impérieux. Je suis allé voir un petit peu parce que... on est au cœur de nous du numérique, donc si tu veux, c'est de quoi. Enfin, toi, c'est on le vit, on le promeut, voilà. On le met en avant, on en voit que les avantages, on saute avec les pâquerettes dans la bouche et tout. Mais pour les gens, c'est il y a un Français sur six qui est victime d'électronisme, c'est-à-dire qu'il ne peut pas accéder aux outils et dans le même temps, on l'oblige pour Pôle emploi, pour les impôts, pour tout ça. Il y a plus de 45% des plus de 70 ans. Et qu'on ne vienne pas me dire que c'est des vieux, parce qu'aujourd'hui, je rappelle que la retraite, elle n'est pas loin de 64-65 ans. Donc, 5 ans après la retraite, c'est quand même pas... c'est pas la fin
de
l'année.
Voilà,
donc, qui considèrent qu'ils ont des très graves difficultés avec le numérique. On a 34% des gens qui n'ont pas de diplôme, qui se considèrent comme électroniques, qui ne peuvent pas accéder aux outils numériques. Waouh! Moi, je ne peux pas me dire qu'on va laisser ces gens-là sur le bord de la route parce que c'est effectivement une question d'éducation. Donc, évidemment, il y a une part d'éducation qui est faite par les proches, les amis, etc. Mais à quoi ça sert l'éducation populaire? C'est justement quand il n'y a pas eu d'éducation. Moi, tu sais, j'habite à Montreuil. On a des cours pour les gens pour le vélo. Tu vas me dire, quel rapport? Si. Parce que le vélo aujourd'hui est en train de devenir un moyen de locomotion d'avenir désirable. Sauf qu'il y a plein de gens qui n'ont jamais appris à faire du vélo. Et moi, je vois, parce que souvent, quand j'emmène, tu vois, à côté de la piscine là, de Montreuil, tu vois des mamies qui apprennent à faire du vélo. Et voilà. Donc c'est pareil pour le numérique. C'est pareil. Et si l'État ne joue pas son rôle, il n'est pas dans son rôle, justement, de collectif. Donc moi, j'appuie complètement le CNUM là-dessus. C'est essentiel, c'est urgent. Sans rentrer, moi, dans la comment, quelle forme, etc. Enfin, tu vois, justement. Mais en tout cas, je ne peux qu'appuyer ça. Ne soyons pas juste des aristocrates du numérique. Il faut justement que ce soit démocratisé. Et aujourd'hui, ça a trop d'impact dans la vie des gens pour que ce soit pas considéré comme un apprentissage que l'État doit faire à tous.
Merci Alain. Ouais, le numérique au service du collectif, hein, c'est également la vision que l'on porte, nous, chez GameSpot, pour les organisations. Et justement, on va en parler des organisations, c'est notre troisième sujet. Où en sont les organisations françaises dans leur transformation numérique? Donc, vous le savez, si vous suivez le podcast depuis un moment, c'est un sujet qui revient de manière assez régulière. On s'intéresse toujours évidemment au marché, un petit peu, de la relation entre organisations, entreprises et numérique. Et justement, la question de savoir où en sont les organisations françaises à ce niveau-là, c'est ce qu'a voulu savoir Expléo, un cabinet de conseil en technologie qui a mené une petite étude, notre péché mignon, hein, toujours, on aime les stades au-delà du live, auprès de 258 entreprises françaises. Et ce qui ressort, c'est que le premier et principal défi rencontré par les organisations françaises concerne les compétences, justement, non pas les outils, par exemple. 79% des organisations interrogées estiment ne pas disposer des compétences nécessaires pour maîtriser et intégrer les technologies émergentes. Donc, on parle ici d'intelligence artificielle, de réalité augmentée, de réalité virtuelle, etc. Et 69% d'entre elles expliquent ne pas être en mesure de retenir les collaborateurs spécialisés sur ces technologies en raison des sollicitations dont ils sont l'objet. Comment est-ce que tu perçois, toi, Alain, la situation actuelle du marché? Et moi, ce que j'aimerais aussi également savoir, c'est qu'est-ce qui explique, selon toi, justement, cette incapacité des organisations à retenir les salariés dont elles ont visiblement aujourd'hui plus besoin que jamais par rapport justement à ce besoin de compétences? Qu'est-ce qui font qu'elles n'arrivent pas à les retenir et qu'est-ce qui explique, selon toi, justement, cette pénurie de compétences?
Ah bah, la pénurie de compétences, hein, on n'a qu'à s'en prendre qu'à notre incurie française de considérer que le numérique, c'était pour les plombiers. Moi, je l'ai raconté deux, trois fois dans ce podcast et ailleurs. Enfin, moi, dans les années 90, quand j'ai dit que j'allais faire de l'informatique, on m'a dit « Ah, mon pauvre, t'es sûr que tu ne veux pas faire autre chose de plus intéressant ?» Parce que quand même, c'est quand même con que tu gâches ta vie, quoi. C'est quand même un peu con, quand même. Hein. Tu vois, d'être un plombier, tu vois. Enfin, il y a un mépris profond du numérique qui vient tout juste d'être levé. Alors que je pense qu'il faut attendre... Hollande commence, en tant que président, commence à peu près à considérer que le numérique, c'est, en tout cas, c'est pas détestable, mais ils s'en foutent. Bah, c'est pas central dans sa vie, quoi. C'est un politique à l'ancienne. Macron considère quand même que le numérique est au cœur, et là, il accélère. Voilà, donc faut voir, hein, on en est là. Et tous les autres avant, Chirac avec le mulot, Sarkozy qui considérait que le numérique était inutile. Bon, voilà, on est quand même dans une espèce de c'est profond, hein, chez nous. C'est profond, hein. Donc, maintenant, on est là. Ah bah oui, alors du coup, il faut en former plein, etc. Et on voit bien. Ça veut dire qu'il faut considérer que les ingénieurs les plus importants de demain seront ceux du numérique. Bah, quand tu vois aujourd'hui ce qu'est notre formation, c'est pas ce qu'on fait, hein, tu vois. Et on est tellement fiers d'avoir des gens qui font du nucléaire aujourd'hui que le numérique, on verra plus tard. Donc oui, il y a une pénurie de compétences à tous les étages. Le modèle de la piscine, on prend des écoles, on jette les gamins dedans et puis ceux qui survivent, bah, ça va, ils vont être formés. Bah, ça ne suffit pas parce qu'en fait, être un ingénieur dans le monde numérique, c'est quand même un vrai métier complexe. J'ai envie de dire, il faudrait une espèce de plan Marshall, pour reprendre le terme américain, il faudrait un sursaut totalement fou pour faire qu'on crée autant d'écoles du numérique qu'on a créé d'écoles de la mécanique quand il y a eu la révolution industrielle. C'est un vrai, vrai sujet profond, problématique. Et moi, je vois que des trucs timides. Je vois que des trucs timides. Quand on a formé, par exemple, la grande école du numérique français, qu'est-ce qu'on a fait? L'État a fait pom-pom, la grande école du numérique. En fait, moi, selon je me suis rendu compte, que derrière, c'était uniquement le fait d'avoir agrégé les écoles du numérique de plein de facs. On a fait la somme de tous les gens qu'il y avait derrière. En disant, bah, comme ça, ça va faire la somme, ça fait 1000 et puis ça fait chic. Bon, donc, voilà, il y a un vrai sujet là-dessus. Et je me dis, on a peut-être une façon de s'en sortir, c'est aussi l'immigration. Enfin, l'immigration pour laquelle c'est une façon, on a des pénuries de ressources, il faut ouvrir l'immigration autour de ces questions numériques. Voilà, je crois. Faut pas avoir peur de ça. C'est une façon de répondre à ce défi. Voilà.
Merci Alain. Je te propose d'attaquer à présent le dernier sujet de ce 31e épisode, avant le sujet de reprise, bien entendu. Là également, un peu comme le sujet avec le gouvernement, c'est un sujet que je voulais vraiment aborder avec toi, car je pense que c'est une technologie dont on parle assez peu, qui est encore assez méconnue du grand public, et je trouvais intéressant de l'aborder avec toi. C'est la question des jumeaux numériques. Donc c'est pour rappel, une technologie qui est développée, enfin, un petit rappel rapide pour nos auditeurs, une technologie qui est développée initialement dans l'aéronautique et l'automobile, et qui est en fait une représentation virtuelle du monde réel. En tout cas, c'est la définition que j'ai pu trouver. Alain, bien sûr, si tu veux compléter ensuite, n'hésite pas, bien sûr. Donc un jumeau numérique peut donc représenter un objet physique, un système, ou également un processus. J'ai lu différents articles qui en parlaient, donc rappeler ce que c'est. D'autres, d'ailleurs, hein, il n'y a pas si longtemps, qui parlaient un petit peu de, justement du risque lié à la sécurité, qui disaient bah, les jumeaux numériques, c'est un système qui est vraiment, c'est une technologie qui est vraiment extrêmement utile, qui est aujourd'hui intégrée dans pas mal d'aspects de notre vie quotidienne, mais qui du coup soulève quand même quelques problématiques, enfin quelques questions en termes de sécurité. Donc voilà, je voulais savoir ce que tu peux nous en dire davantage sur cette technologie, Alain. Pourquoi est-ce qu'elle est aujourd'hui présente dans de nombreux aspects de notre vie quotidienne et ce que tu en penses de manière globale, bien sûr.
Ah bah, je pense que finalement, ce jumeau numérique, c'est finalement un espèce d'aboutissement de ce qu'est le numérique et tendanciellement en termes d'usage pour notre société. C'est-à-dire que si tu prends par exemple le savoir, on avait avant des livres, et puis aujourd'hui on a Wikipédia, puis maintenant on a ChatGPT qui répond. Donc quelque part, le savoir, il est permanent et c'est un double de notre monde. Mais à un moment donné, le problème, c'est que le savoir, il n'est pas juste justement linéaire comme dans les livres. Bah, par exemple, si tu prends une route, bah, le savoir, c'est le fait qu'en dessous du trottoir passent des tuyaux pour l'eau, l'électricité, Internet, etc. Et où sont ces tuyaux? À qui sont raccordés? Ça, par exemple, c'est un vrai savoir qu'on peut mettre sur des plans, mais ces plans, si en plus ils sont justement rattachés au monde réel, bah, ça y est, ça devient le jumeau numérique, c'est-à-dire qu'on a doublé l'information de ce qu'il y avait dans le monde numérique. Et en fait, on passe notre temps à faire un peu ça. Hein. On prend le monde réel, une photo, par exemple, ou une vidéo, c'est à un instant T, on voit les objets, les personnages qu'il y a dans le monde réel. Donc, finalement, on extrait, nous, de notre connaissance, ces éléments d'information, faire du réel, du numérique. Sauf que là, c'est tout d'un coup que ce soit des vrais objets numériques et non pas des objets que nous, on comprend, sans avoir besoin de l'humain au milieu, sur lesquels ensuite on va pouvoir faire donc, des calculs. Bah, par exemple, les tuyaux, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? S'il faut les changer, à quel endroit il faut le faire? S'il y a des problèmes de panne, que ça remonte? Et on voit tout d'un coup toute la chaîne logistique qui est autour de mon... de notre monde, entre guillemets, qui peut être doublée. Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors après, ça a quand même un certain nombre de limites. Je vais en donner deux qui sont... Il y en a plein, mais je vais en donner deux qui sont assez paradoxales. Par exemple, tu vois, quand j'étais avec une table ronde de la Gazette des Communes autour de la question de ces jumeaux numériques, il y avait un acteur là, de la région Bretagne qui disait « Si aujourd'hui, on nous demandait de refaire les projets de jumeaux numériques des villes pour faire les smart cities, bah, peut-être on dirait non à cause du CO2. Pourquoi ? Parce que pour ça, il faut mettre des capteurs, par contre, dans toute la ville. Et que ça coûte très cher en CO2. Et que donc, du coup... Le gain en CO2 de ce qu'on peut faire avec ce jumeau numérique est peut-être pas assez important par rapport au CO2 qu'on va du coup consommer pour mettre en place un système de jumeau numérique. Ah, là tu dis, ah ouais, tiens, j'avais pas pensé à ça. Et tu vois, nous, je prends un deuxième exemple, c'est dans les bureaux virtuels. Finalement, un bureau virtuel, il y a une façon de le voir qui est de dire c'est un jumeau numérique. C'est-à-dire que là, tu vois, là, aujourd'hui, tiens, je suis venu enregistrer dans les bureaux, mais j'aurais pu être chez moi. Et toi, je sais pas, toi, t'es peut-être chez toi, là, Benoît, quand tu enregistres. Donc, tu vois, on va avoir un jumeau numérique où toi, tu es chez toi, moi, je suis chez moi. Et tu sais que ce qu'on a fait, nous, dans le bureau virtuel, c'est justement pas ça. On a fait un bureau virtuel, mais qui n'est pas le jumeau numérique exact de là où on est, parce que sinon, là, si je fais un jumeau numérique, toi, tu es chez toi, moi, je suis ici, mais on ne se voit pas. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un jumeau, mais pas trop. Hein, d'ailleurs, je renvoie à ce film formidable qui s'appelle Jumeau, mais pas trop, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui est un film très drôle. En plus, c'est un pote qui s'appelle Olivier Ducret qui l'a écrit et réalisé, donc je fais la pub. Donc, jumeau, mais pas trop, d'Olivier Ducret, surtout dans une bonne chaîne streaming, replay et DVD en ligne. Et donc, jumeau, mais pas trop, parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est justement être ensemble, mais par exemple, dans les bureaux virtuels, tous les deux. Mais surtout pas qu'on soit séparés comme dans la vraie vie, tu vois. Donc, finalement, le jumeau numérique... C'est formidable pour tout ce qui concerne la question logistique, réparation, etc. Mais à un moment donné, ça a justement les inconvénients de l'avantage, c'est que ça réifie trop le réel, alors que des fois, on a besoin de s'en extraire. Tu vois, on a besoin de s'en extraire pour des problèmes de bilan carbone, ou on a besoin de s'en extraire parce que ce qu'on veut construire tous les deux, par exemple, toi et moi, Benoît, là, c'est une relation justement de proximité et non pas de réalité d'être à deux endroits différents. Tu vois le point ?
Ouais, je vois ton point, effectivement.
Donc, comme souvent, à un moment donné, tu as un concept comme ça qui arrive, tu as l'impression qu'il va tout casser, il va tout faire, et tout, on se dit, ah ouais, mais ouais, comme quand... Einstein a sorti E égale MC2, tout est relatif, quoi. Bah ouais, mais non, parce qu'en fait, la physique quantique, elle n'est pas relative. Oh mince, ça veut dire quoi ? Bon, bah, c'est pareil. Les jumeaux numériques, c'est à la fois une super capacité, mais pour certains contextes, qui devient problématique. Donc, jumeaux, mais pas trop, d'Olivier Ducret.
Okay. J'adore avec toi Alain, tu vois, on parle de technologie, on parle numérique, on parle de film, on parle cinéma, et on parle d'Einstein et de physique quantique, voilà, il peut arriver n'importe quoi dans du live, c'est magnifique. Merci en tout cas pour voilà, d'avoir abordé ce sujet des jumeaux numériques, je pense qu'on aura sans doute l'occasion d'en reparler, parce que c'est un sujet qui gagne en importance et en visibilité, hein, donc voilà, ça me semblait important d'en parler rapidement avec toi. Bah écoute, merci Alain, on arrive du coup bah, au traditionnel sujet surprise, hein, vous le savez, petit sujet d'actualité, voilà, qu'on garde, qu'on vous dévoile à la fin de chaque épisode au-delà du live. Alors, le sujet surprise de ce... Oui, dis-moi Alain.
Ben non, mais la surprise, voilà.
Oui, il faut se... Rappelez-vous, chers auditeurs, que Alain fait au-delà du live juste pour le sujet surprise. Voilà, c'est pour ça que on passe rapidement en revue les premiers sujets pour arriver à celui-là. Eh ben, écoute, Alain, le sujet surprise de ce 31e épisode, étonnamment, il a un lien avec celui de l'épisode précédent. Il concerne à nouveau les data centers. Hein, donc, pour celles et ceux qui ont écouté le 30e épisode, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire du coup. Dans le dernier épisode, en fait, on vous avait parlé de Denver, donc la start-up française, dont l'objectif est de déployer un data center flottant afin de refroidir les serveurs grâce justement au froid naturel de l'eau. C'est d'ailleurs un projet qui doit être mis sur pied, enfin je veux dire lancé normalement cet été. Donc, encore une fois, on souhaite le meilleur à Denver. Aujourd'hui, c'est le groupe mayennais Numain qui propose une autre solution pour les data centers, toujours sur la problématique du refroidissement. Plonger les data centers, attention, dans des bains d'huile afin de les refroidir. Alors c'est Xavier Collas qui est responsable des projets stratégiques au sein du groupe Numain qui nous explique qu'on appelle ça donc vulgairement de l'huile, hein, mais qu'il s'agit en vérité d'un fluide diélectrique et biodégradable, un liquide qui a des caractéristiques particulières et notamment celle de ne pas conduire l'électricité. Le gros atout en fait de ça, on peut vous dire bon des bains d'huile quand même, c'est un peu bizarre, mais l'avantage de ce système là est qu'il n'y a pas besoin du coup de climatiseur pour refroidir les salles, donc avec la promesse d'un gros gain sur la facture d'électricité qui serait divisé par deux, mais aussi une très faible consommation d'eau. Et c'est une solution qui se voudrait du coup vertueuse, puisque, et c'est là où j'ai trouvé ça vraiment très impressionnant, 90% de la chaleur peut ensuite être récupérée plutôt que de la dissiper bêtement. Voilà. Donc voilà, un bon bain d'huile pour nos data centers. Donc voilà, d'ici peu, les data centers seront soit sur la Seine, soit dans des bains d'huile. J'ai trouvé cette solution assez intéressante, une solution à la fois innovante et écologique que je voulais te partager parce que ça permet d'une part de mettre en lumière les actions et la capacité d'innovation des acteurs français. C'est quand même deux beaux exemples de ce qu'on est capable de faire justement en France. Et d'autre part, de montrer également à quel point le refroidissement des data centers, c'est un problème qui est assez épineux, hein, pour le coup, autant d'un point de vue financier pour bah, justement les fournisseurs que d'un point de vue écologique, hein, c'est quelque chose d'assez problématique, et que bah, justement l'innovation en fait est vraiment le pilier, l'élément qui nous permettra justement de résoudre ce problème. C'est, tu l'as rappelé, hein, le numérique, c'est un domaine qui est complexe, on cherche justement des solutions à des problèmes toujours plus nombreux. C'est ce qui fait aussi la beauté du secteur, et donc je voulais le partager avec toi. Voilà.
Mais tu fais bien, écoute, et tu sais, en fait, il y avait un groupe de musique qui avait déjà anticipé cette annonce d'innovation, donc j'invite tous les auditeurs à aller écouter Réglisse, R-E-2-G-L-Y-2-S, avec son tube qui s'appelait « Mais de l'huile ». Et donc, c'est une chanson que je vous invite à voir, vous allez voir, qui est très drôle. En tout cas, en 92, « Mais de l'huile » de Réglisse. Voilà, donc, il fallait juste écouter. Elle a été numéro 1 au top 50 quand même à l'époque, il y avait le fameux top 50. Je ne sais pas si tu avais vu ça, tu n'avais pas forcément anticipé ça, hein, parce que tu n'étais pas né à l'époque du top 50, Benoît, je le sais.
et pourtant, si, j'étais né, je crois que voilà. Ça existait encore.
Je donne tous les innovateurs, réécoutez et réécouter le top 50. Voilà.
Réécouter le top 50, réécouter l'église. Bah, tu vois, on aura parlé cinéma, on termine sur une note de musique. C'est magnifique, Alain. C'est magnifique, voilà.
J'ose,
plein de sujets. J'ose à
peine, faut que tu le mettes. Est-ce que j'essaie de le mettre pour voir ce que ça donne, mais de lui, là.
Bah écoute, tu peux, voilà, tu sais quoi, essayons l'innovation jusqu'au bout. Je ne sais pas si les auditeurs pourront l'entendre, mais on peut tenter le coup.
Attends, parce que du coup, parce que évidemment, voilà, et puis on verra, je te le mets, et pour la fin, mets de l'huile, parce que je cherche du coup, voilà, top 50, mets de l'huile, c'est parti. Ouais, ça sent bien les années 80, ça. Hein.
Ça sent très bon les années 80.
Mais je pensais qu'il chantait. Hein. Mais il chante pas. Hein.
Tu n'es pas jamaïcain, tu chantes le reggae. Tu es l'angle de l'huile.
Voilà, voilà.
Mets de l'huile.
Voilà, mets de l'huile, tu vois.
Mets de l'huile.
voilà, j'espère qu'on va pas être. Tu sais, ils vont repérer qu'il y avait mis de l'huile et tout ça, qu'on va être obligé de payer des royalties avec tous les gens qui nous écoutent. J'espère qu'on va pas ruiner James Bond à cause de ça. Hein,
voilà. Et j'espère aussi, en tout cas, si le groupe Numa ne sait pas quoi mettre comme musique le jour du déploiement de sa solution, je pense que maintenant, grâce à toi, là, c'est tout trouvé. Ils pourront mettre église et là, ça coulera tout seul. Merci Alain de m'avoir accompagné dans la réalisation de ce nouvel épisode. Ça a été un plaisir, comme d'habitude, de réaliser ça avec toi.
Eh ben écoute, plaisir partagé et oublie, mais de l'huile.
Ça pour le coup j'oublierai pas. Merci également bien sûr à vous chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous connaissez la chanson maintenant, tous nos podcasts sont à retrouver sur la chaîne Livre du Digital, des rencontres avec des experts du numérique, des débats, des débriefs, des questions autour du numérique et de son futur. Il y a de quoi faire sur la chaîne Livre du Digital. Merci à tous et rentrez-vous très bientôt sur la chaîne pour un nouveau podcast. À très bientôt.